Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, Éclairage s'intéresse dans cette émission au rythme de notre horloge biologique et à ses petits dysfonctionnements. Pourquoi les personnes âgées dorment-elles moins? Pourquoi les adolescents se couchent-ils tard? Existe-t-il des conséquences physiologiques à court ou long terme pour ceux et celles qui travaillent de nuit? Et puis, si nous pouvons imaginer bien sûr un lien entre les dépressions et les troubles du sommeil, en revanche, quel est le rapport entre nos dysfonctionnements de l'horloge biologique et les cancers hormonodépendants tels que le cancer du sein, les ovaires ou le cancer de la prostate? Pour évoquer avec nous comment fonctionne notre horloge interne, les troubles qu'elle peut induire et les remèdes qui existent ou que l'on doit améliorer, le professeur Yvan Twitou nous reçoit dans son bureau à la faculté de médecine à Paris. Yvan Twitou, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accueillir, donc je le disais à l'instant, dans votre bureau. Vous êtes membre de l'Académie de pharmacie, dont vous étiez le président en 2007, également correspondant de l'Académie nationale de médecine. Alors, vous travaillez sur les dysfonctionnements de l'horloge biologique et leur traitement, et vous avez participé à la rédaction d'un rapport en février 2008 sur les rythmes biologiques et thérapeutiques, rapport édité au nom de l'Académie nationale de pharmacie et rapport sur lequel je me suis appuyée pour préparer cette rencontre. Yvan Twitou, commençons par le début, si vous le voulez. Eh bien, lorsque l'on parle d'horloge biologique, en fait, il y en a plusieurs d'horloges biologiques.
Oui, il y a de nombreuses horloges biologiques, certaines probablement plus importantes que d'autres. La hiérarchie des unes par rapport aux autres est encore mal connue. L'horloge qui est la plus connue actuellement, parce qu'elle a fait l'objet du plus grand nombre de travaux, est une horloge qui se trouve dans le cerveau. Elle se trouve au-dessus des chiasmas optiques, dans les noyaux suprachiasmatiques de l'hypothalamus, qui sont des noyaux faits d'environ 10 000 cellules et qui sont un des éléments essentiels horlogers biologiques, disons. Ce qu'il faut savoir cependant, c'est que, et pour ça que l'on pense qu'il y en a d'autres et que d'autres ont été identifiés, c'est que lorsque chez l'animal de laboratoire, on détruit, on peut le faire, les noyaux suprachiasmatiques, un certain nombre de rythmes circadiens disparaissent, les fonctions restent, mais le rythme disparaît, cependant que d'autres continuent d'exister. Ce qui veut bien dire qu'il y a d'autres horloges qui interviennent, qui codent pour ces autres qui ne sont pas modifiés par la disparition des noyaux suprachiasmatiques.
Alors, vous avez parlé à l'instant des rythmes circadiens. Quels sont les éléments qui vont jouer sur notre veille et sur notre sommeil? J'imagine que le jour et la nuit interviennent.
Oui, lorsqu'on envisage ce que l'on appelle les rythmes circadiens, circadien veut dire environ 24 heures, circa c'est du latin, environ 24 heures, on considère comme circadien tous les rythmes dont la période est de 20 à 28 heures. Qu'est-ce que ça veut dire la période? Ça veut dire que si à l'instant même j'ai une fonction qui quotidiennement pique à, nous sommes 10h15, et bien demain ça piquera à 10h15 et après-demain à 10h15, plus ou moins évidemment quelque chose en fonction de ce que j'aurais fait dans les journées précédentes. Donc les rythmes circadiens sont des rythmes d'environ 24 heures. Ils sont encadrés, ils sont contrôlés mais pas créés, c'est ça qui est extrêmement important, ils ne sont pas créés, ils sont contrôlés, modulés par l'environnement. Qu'est-ce que c'est que l'environnement? C'est pour l'horloge biologique, tout ce qui est alternance, c'est-à-dire l'alternance de la lumière et obscurité, l'alternance des veilles-sommeil, l'alternance des repas par exemple, l'alternance des saisons. Mais à l'intérieur de ces alternances, il en est qui sont plus importantes que d'autres. Chez l'homme, ça dépend des espèces, chez l'homme, les alternances les plus importantes qui encadrent les rythmes circadiens, c'est-à-dire qui entraînent sur 24 heures notre horloge biologique, sont l'alternance lumière-obscurité et l'alternance veille-sommeil. Ce qui veut dire que lorsqu'il y aura des problèmes au niveau de ces alternances par rapport à l'organisme, eh bien, il y aura des problèmes de l'organisme parce que l'horloge sera désynchronisée.
Alors, qu'en est-il pour les aveugles, puisque vous parliez d'obscurité et de lumière? Alors, pour les aveugles, j'imagine, de naissance.
Pour ce qui concerne les aveugles, il y a des travaux de plus en plus fréquents actuellement sur ce que deviennent les rythmes circadiens chez l'aveugle, dans la mesure où, en quelque sorte, précisément, c'est une sorte de modèle expérimental par rapport au rythme circadien en particulier. Il y a deux cas de figure, grossièrement, ou bien c'est une cécité totale. Il y a donc une rupture avec l'environnement, en tout cas une rupture avec le cycle lumière-obscurité. Et ce qui prend le relais, c'est le cycle social, en quelque sorte. Donc si ces aveugles sont encadrés sur le plan social, nous avons montré très récemment que lorsque on avait affaire à des jeunes aveugles qui étaient en institution, qui étaient encadrés par des heures très strictes, eh bien à ce moment-là, les rythmes persistent. Ils persistent également si la cécité n'est pas totale, c'est-à-dire que même s'ils sont aveugles, il reste quelques cellules rétiniennes qui leur permettent de percevoir l'alternance, grossièrement l'alternance lumière-obscurité, de percevoir un peu la lumière, et ils sont synchronisés. En revanche, si en l'absence de synchroniseurs sociaux ou lumineux en cécité totale, ils sont en libre cours, c'est-à-dire que les rythmes, les uns par rapport aux autres, fonctionnent de façon individuels, sans relation les uns avec les autres, et ils sont en désynchronisation qui se manifeste de façon très macroscopique par des troubles du sommeil. L'aveugle se plaint de troubles du sommeil.
Donc c'est assez courant.
Chez l'aveugle, en cécité totale, c'est courant.
Qu'en est-il des personnes, j'imagine qu'on doit faire beaucoup d'expériences, des personnes qui sont enfermées dans des grottes, qui sont totalement dans l'obscurité pendant plusieurs jours. J'imagine que des expériences ont été réalisées.
Il y a effectivement des expériences, pas nombreuses, parce que vous imaginez très bien que ce sont des expériences très lourdes et qu'il faut trouver l'individu qui, mâle ou femelle, homme ou femme, qui accepte de se soumettre à ce type d'expérience. Il y a des expériences chez l'homme ou la femme qui sont des expériences le plus souvent de personnes qui acceptent de rentrer dans des grottes. Et ces expériences ont l'intérêt précisément d'abstraire l'individu de l'alternance, lumière-obscurité, veille et sommeil, etc. Pourquoi ? Parce que l'individu qui se prête à cette expérience n'a pas de montre, il est en relation complète avec l'extérieur, parce qu'il a la possibilité de s'adresser quand il veut, sans savoir l'heure qu'il est, et sans qu'on le lui dise à l'extérieur, à quelqu'un qui se trouve précisément à l'extérieur. Alors l'expérience a montré que le plus souvent, ces personnes restent pendant environ 2 à 3 mois en grotte, et quand ils ne supportent plus, ils demandent à sortir. Et quand on leur demande « Depuis combien de temps êtes-vous dans la grotte ?», le temps s'est considérablement raccourci, ils pensent qu'ils y sont depuis seulement 1 mois, alors qu'ils y sont depuis 2 à 3 mois. Et des études qui ont été faites sur de la salive, des urines, etc., ont montré que, en l'absence de synchroniseurs, les rythmes persistent, mais ils ne sont plus exactement de 24 heures, ils sont précisément en libre cours. C'est-à-dire que le rythme circadien persiste, on est toujours dans un système de rythme compris entre 20 et 28 heures, mais il n'y a plus cette harmonisation liée des rythmes, c'est-à-dire ce contrôle des rythmes lié aux synchroniseurs, puisque ces synchroniseurs ne sont plus là.
Avec une idée d'hibernation, en quelque sorte, puisque ces personnes-là pensent passer 1 mois, alors qu'en fait, ils y sont restés 3 mois dans cette grotte.
Je ne sais pas trop s'il s'agit d'une idée d'hibernation, mais en tout cas, l'hibernation est gérée également sur le plan rythmique, parce qu'il existe une hormone dans le cerveau, sécrétée par une glande endocrine qui s'appelle la glande pinéale. Cette hormone, la mélatonine, est une hormone qui permet de donner à l'organisme la longueur, en quelque sorte la notion de longueur du jour et de la nuit, et la notion de saison. Or, chez les animaux hibernants, ce qui est remarquable, c'est que l'animal hibernant va comprendre par anticipation que la photopériode est en train de diminuer, c'est-à-dire que la longueur du jour diminue, et il va comprendre que la mauvaise saison pour la conservation de l'espèce va arriver, et il va comprendre qu'il faut que progressivement, une sorte de calendrier qui s'installe, qu'il va hiberner. Et c'est exactement la même chose pour les oiseaux qui vont vers des cieux plus cléments lorsque l'hiver arrive. Ce qui est de remarquable, c'est qu'il y a une sorte de calendrier qui est compris grâce à cette sorte de message qui est envoyé par la mélatonine qui dit « Attention, on arrive dans la mauvaise saison, l'espèce va disparaître, si tu restes là, il faut que tu t'en ailles. » Et il s'en va.
Alors revenons peut-être à des cas qui nous concernent plus concrètement. Je vais vous poser les questions que nous nous posons tous. Par exemple, pourquoi avec l'âge, pourquoi lorsque nous devenons un peu plus âgés, nous dormons moins, nous avons moins besoin de dormir et même parfois on aurait envie de dormir et on n'y arrive pas.
Ça, c'est un problème important. Les gens qui s'occupent du sommeil vous disent tous, et c'est un consensus, que la personne âgée se plaint toujours de troubles du sommeil en disant en particulier qu'elle ne dort pas suffisamment. Or, lorsqu'on fait des tracés de sommeil chez ces personnes âgées, on observe qu'elles dorment en réalité. Elles dorment le temps nécessaire en réalité. Mais le sommeil, apparemment, n'est pas perçu comme récupérateur. En termes de quantité de sommeil, je crois que le sommeil est là. En termes de qualité de sommeil, la qualité n'est pas là. Et le grand élément qui est intervenu dans les, disons, 30, 40 dernières années, c'est qu'il a été montré que les personnes âgées sont en avance de phase, ce qui veut dire qu'elles vont se coucher de plus en plus tôt, ce qui veut dire qu'elles vont se lever de plus en plus tôt. Et c'est peut-être une des raisons qui permettent de penser qu'elles considèrent qu'elles n'ont pas la quantité de sommeil. Je ne parle pas de la qualité. La qualité n'est pas bonne, puisqu'elles la vivent comme pas bonne, donc il faut les croire, mais la quantité est là.
Du coup, on va reculer dans l'âge, passons aux adolescents. Les adolescents ont des périodes où ils vont se coucher, eux, à l'inverse, très très tard. Comment on l'explique? Est-ce qu'il y a une explication? Est-ce que, en dehors de facteurs sociaux?
Je crois que c'est la seule explication. Que la grande explication de cette affaire des adolescents qui, eux, se mettent en retard de phase, c'est-à-dire qui vont dormir de plus en plus tard, je crois que c'est un problème essentiellement sociétal, dans la mesure où ces adolescents sont confrontés, le terme n'est pas trop fort, véritablement confrontés aux jeux électroniques, à la télévision. Un grand nombre d'adolescents ont la télévision dans leur chambre, ce qui est un contresens total. À l'Internet, évidemment, et au laxisme des parents. Alors, je sais que c'est très, très difficile de faire comprendre à un adolescent qu'il faut qu'il aille dormir à des heures à peu près correctes, mais il se met en retard de phase, c'est-à-dire que progressivement, il s'installe dans un système où ils vont dormir de plus en plus tard, et comme le lendemain, il faut se lever pour aller à l'école, ils ont une dette de sommeil qui devient considérable et qui intervient sur l'efficacité au travail.
Parlons de travail, justement. La transition est toute trouvée. Parfois, nous n'avons pas forcément la possibilité de choisir nos horaires de travail. Il y a le travail de nuit, les 3-8. Qu'en est-il pour ces personnes qui travaillent de nuit? Parce que pour certaines, il n'y a aucun problème à travailler de nuit. Et pour d'autres, c'est très difficile de s'adapter à ces horaires. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plusieurs types de personnes avec leur sommeil qui peuvent s'adapter à des horaires difficiles?
C'est une question qui amène des réponses assez étagées, qui, je crois, sont les suivantes. Il existe ce que l'on appelle le travail posté, c'est-à-dire soit 3 fois 8, soit le travail de nuit. Ce travail posté représente en France environ 15 à 20% de la population, ce qui est énorme. Et il est essentiel pour que la machine économique fonctionne. Donc, c'est un problème majeur de société. Sur le plan de la santé, le travailleur posté va soit être tolérant au travail posté, soit être intolérant au travail posté. Il est intolérant soit d'emblée, soit après avoir été tolérant pendant un certain temps, il devient intolérant. La question majeure serait de dire, mais n'a-t-on pas un marqueur ou des marqueurs qui permettent de préciser que tel individu serait inapte au travail posté dans le cadre de la médecine du travail? Non. Malheureusement, ces marqueurs n'existent pas. On n'est pas capable de savoir si telle ou telle personne va être tolérante ou intolérante au travail posté. En revanche, on peut tenir compte de la typologie de l'individu. La typologie, c'est le fait que environ 5 à 10% de la population générale est du matin ou du soir. C'est-à-dire que 5 à 10% se disent incapables de dormir après telle heure ou avant telle heure. Ces typologies matin, ce sont ceux qui se couchent tôt et qui se réveillent tôt. Typologie soir, ce sont ceux qui se couchent tard et qui se réveillent tard. Alors, dans le cadre, on pourrait peut-être tenir compte de cette typologie pour voir si un individu peut, par exemple, faire le travail de nuit. Alors, vous me posez la question de savoir ce qu'il en est sur les rythmes circadiens. Évidemment, ces gens-là travaillent à contre-courant de l'organisation sociale et de l'organisation normale d'un organisme habituel. Puisque, par exemple, ils travaillent la nuit ou puisque, par exemple, on leur demande de travailler une semaine de jour, une semaine d'après-midi et une semaine de nuit. Dans ces conditions, leur horloge biologique n'est pas en harmonie avec son environnement. parce que c'est comme s'ils étaient en situation, pour ceux qui font les 3-8, c'est comme s'ils étaient en situation de jet-lag constant, de vol transméridien constant, puisqu'ils changent. Alors, ce que nous avons montré, c'est que lorsque la rotation, pour ceux qui travaillent les 3x8, est rapide, ils supportent beaucoup mieux ce travail posté que lorsqu'elle est lente. Pourquoi ? Parce que d'une rotation à l'autre, ils n'ont pas le temps de se mettre à l'heure de la rotation précédente et l'adaptabilité joue, bien entendu, c'est fatigant, mais l'adaptabilité joue beaucoup mieux que si les rotations sont longues, par exemple une semaine ou 15 jours. Vis-à-vis du travail de nuit, ça pose un problème tout à fait particulier parce que là, nous sommes dans un espace de temps qui est rigoureusement toujours identique, la nuit. Mais à nouveau, les gens, en particulier beaucoup les femmes et en particulier dans le milieu de la santé, dans les hôpitaux, les infirmières, travaillent la nuit, mais le lendemain matin, là où elles sont censées dormir, elles dorment beaucoup moins pour des raisons évidentes, c'est qu'elles ont à s'occuper de leurs enfants, de leur foyer, etc. Ce qui fait qu'il s'installe là une dette de sommeil, ce qui fait que là aussi il y a tolérance ou intolérance au travail de nuit, et c'est ce qui fait aussi qu'il y a à ce niveau-là une désynchronisation, comme dans le travail posté, comme dans le jet lag, c'est-à-dire que l'horloge biologique n'est plus en relation avec l'horloge de notre montre, c'est-à-dire l'horloge astronomique. Et cette différence de relation fait qu'il y a une désynchronisation, c'est-à-dire mauvaise qualité du sommeil, de l'humeur, fatigue, trouble de l'appétit, etc. Et récemment, il a été indiqué au travers d'un certain nombre d'études épidémiologiques qui ont été reprises et analysées par le Centre international de recherche sur le cancer à Lyon, que le travail de nuit était pourvoyeur de risques relatifs de cancer du sein. C'est-à-dire que chez ces femmes qui travaillent la nuit sous la réserve qu'elles travaillent pendant plus de 20 ans en raison de au moins 3 nuits par semaine, dans ces conditions, il y a un risque qui est augmenté de l'ordre de 60 à 80%.
Donc, c'était une étude qui a été réalisée sur, j'imagine, plusieurs personnes qui ont travaillé pendant 20 ans de nuit.
Ce sont plusieurs études épidémiologiques. À ma connaissance, il y en a 8, dont 6 sont de bonne qualité épidémiologique. Et l'une, la plus importante, porte sur 75 000 infirmières. Elle a été faite aux États-Unis.
Parce que j'imagine que l'organisme est peut-être plus fatigué et de ce fait, des maladies peuvent se déclencher parce que l'organisme est fatigué.
L'explication mécanistique est difficile. Oui. Les épidémiologistes qui, lorsqu'ils trouvent un résultat, ont besoin précisément de mettre en avant une explication de mécanisme, indiquent que ce serait la mélatonine qui serait altérée par ce travail de nuit. Et ce serait normal, j'allais dire, puisque sur le plan physiologique, la sécrétion de mélatonine est totalement abolie en présence de lumière. Le pic est la nuit, 2 heures du matin. Et lorsqu'on travaille de nuit, on a de la lumière, il n'y a donc plus de pic. Or, il se trouve que la mélatonine a, entre autres propriétés, elle en a de nombreuses, la mélatonine a deux propriétés fondamentales par rapport au rythme biologique. Elle est une hormone qui va permettre de synchroniser l'organisme et elle est une hormone qui est anticancéreuse en quelque sorte, puisqu'il a été montré qu'il y a des relations entre mélatonine et protection vis-à-vis du cancer.
Mais n'est-il pas possible que nous puissions, nous, gérer ces rythmes biologiques ? Je pense par exemple, et donc l'adapter à nos besoins, je pense par exemple aux navigateurs qui dorment, mais sous forme de micro-sommeil. Ça veut dire qu'ils arrivent à forcer leur organisme à avoir un sommeil récupérateur de quart d'heure, toutes les 20 minutes, même voire toutes les demi-heures. Est-ce que, de la même manière, il ne serait pas possible, par exemple, pour les personnes qui font du travail posté, qui travaillent de nuit, de faire la même chose ?
C'est probablement possible. Il faut probablement également faire un travail expérimental qui permette de dire que c'est utile. Mais ça dépend, pour l'essentiel, de ce qu'est le substrat biologique et psychologique de l'individu. Il y a des gens qui sont capables de faire des microsommeils, d'autres qui ne le sont pas. Mmh. Il y a des gens qui sont capables, sur commande, de s'endormir, d'autres qui ne le sont pas. Donc, il est probable que ça puisse intervenir, mais l'intérêt de cette situation, de ce type de situation de microsommeil ou de petite cure de sommeil pendant le travail, reste à démontrer.
Yvan Twitou, revenons sur la question du jet lag dont vous avez parlé il y a quelques minutes. Pourquoi est-il plus facile de récupérer son sommeil, de retrouver son cycle de sommeil lorsque l'on part à l'ouest, donc aux États-Unis, et à l'inverse, que ce soit plus difficile lorsque l'on part par exemple en Chine?
Le jet lag, c'est une manière macroscopique de voir ce qu'est la relation de l'horloge biologique avec la montre, avec l'horloge astronomique. Dans le jet lag, vous faites un vol transméridien et il y a une perturbation de l'horloge après 3 fuseaux horaires. À moins de 3 fuseaux horaires, il n'y a pas de perturbation de l'horloge, ce qui indique très clairement, en aparté, que l'heure d'été et l'heure d'hiver, c'est véritablement du pipeau, ça n'a aucun effet sur les rythmes biologiques. Ça peut avoir d'autres effets pour d'autres causes, mais ce ne sont pas les rythmes biologiques qui interviennent comme éléments négatifs parce qu'ils seraient perturbés dans l'heure d'été et dans l'heure d'hiver. Donc si on revient au jet lag, il y a évidemment des destinations vers l'ouest, par exemple Paris, New York, et des destinations vers l'est, par exemple Paris, la Chine. Lorsque on va vers l'ouest, c'est-à-dire qu'on suit le soleil, et lorsque l'on arrive à destination de 5 ou 6 fuseaux horaires, par exemple New York, on arrive avec son horloge biologique à l'heure de Paris, et à New York, il est plus tôt. Donc, finalement, ce qui se passe, ça correspond tout simplement, si on va se coucher, il ne faut surtout pas aller se coucher tout de suite parce qu'on est fatigué, mais attendre l'heure de coucher de New York, c'est-à-dire 20h, 21h, 22h, ce à quoi on est habitué. Et à ce moment-là, finalement, ce qui se passe, c'est comme si on avait une journée plus longue. Et tout le monde peut se remettre d'une journée plus longue. Ce qui veut dire que dans ces conditions d'un vol vers l'ouest, il y a une perturbation du sommeil. Et cette perturbation du sommeil est en moyenne réglée en 3 à 4 jours. Ça dépend évidemment des individus, ça dépend de l'âge. Elle est réglée beaucoup plus vite chez les enfants et beaucoup moins vite chez certaines personnes âgées, pas toutes. Lorsque l'on va vers l'est, à ce moment-là, on donne le dos au soleil en allant vers l'est, par exemple vers la Chine. Et ça correspond, donc on est également en désynchronisation, mais c'est beaucoup plus mal supporté que vers l'ouest. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ça correspond soit à une journée très courte, soit au fait que l'on n'a pas du tout dormi pendant, disons, 36 heures. C'est la raison pour laquelle les voyages vers l'est sont beaucoup plus fatigants. Et ils mettent beaucoup plus de temps. Et le temps est d'autant plus élevé qu'il y a des fuseaux horaires qui sont passés, plus de fuseaux horaires qui sont passés. Et on considère en moyenne, c'est véritablement une moyenne pour donner une idée, qu'il y a une heure de récupération par jour. Donc quand vous faites 7 fuseaux horaires, il vous faut 7 jours pour récupérer.
Venons-en, puisque nous arrivons au terme de cette rencontre, venons-en aux moyens pour traiter peut-être ces dysfonctionnements, parce que j'imagine que pour les personnes qui ont des soucis de dysfonctionnement biologique, ça doit être assez difficile. Je pense notamment par exemple à des personnes qui sont en roue libre et qui ont des rythmes qui fluctuent, j'imagine, très rapidement. Quels sont les moyens pour les aider? C'est par exemple de leur administrer de la mélatonine, qui est l'hormone dont vous parliez.
C'est un des moyens. La mélatonine, l'autre moyen, c'est la lumière forte. Bien entendu, l'indication de la mélatonine ou de la lumière forte, les indications sont différentes. Pour parler de la mélatonine, c'est donc une hormone de la pinéale et qui est à la fois un marqueur des rythmes circadiens et qui est à la fois, c'est en quelque sorte l'aiguille de l'horloge. C'est elle qui apporte à l'organisme et à toutes les cellules de l'organisme la notion de photopériode, c'est-à-dire de longueur respective du jour et de la nuit. Et il a été montré que selon l'heure à laquelle la mélatonine est administrée, par voie orale par exemple, elle est capable soit de ne rien faire, soit d'avancer la phase des rythmes, c'est-à-dire de permettre à un rythme d'être décalé en avançant sa phase, c'est-à-dire son pic, soit de retarder la phase des rythmes, c'est-à-dire l'inverse. Ce qui veut dire qu'il y a ce que l'on appelle une courbe de réponse de phase, c'est-à-dire qu'à la même dose, chez les mêmes sujets, à des heures différentes, on a des résultats totalement différents. Et de cela, on prend appui sur cela pour traiter, évidemment, en antithèse, les sujets qui sont en avance de phase, on va leur donner de la mélatonine pour qu'ils soient en retard de phase et pour amener l'aiguille de l'horloge à la bonne heure, et vice-versa. Donc, c'est un élément. L'autre élément, c'est la lumière forte. Par exemple, pour le jet lag, le meilleur moyen de lutter contre le jet lag, c'est de faire de l'exercice physique quand vous êtes arrivé à destination. Exercice physique, et vous, par exemple, l'exercice physique, tout simplement, vous promenez au soleil, s'il y a du soleil, en tout cas dehors, dans la rue, de manière à vous synchroniser. Parce que l'exercice physique est un agent de resynchronisation, l'activité physique est un agent de resynchronisation, la lumière est un agent de resynchronisation, comme la mélatonine.
Également, j'avais cru lire dans le rapport que, par exemple, administrer de la caféine à libération prolongée pouvait aussi aider à resynchroniser.
C'est exact. Il y a des travaux maintenant assez anciens qui ont montré que la caféine, et il y a un article qui est publié tout récemment par une équipe israélienne, qui montre que la caféine comme la mélatonine ont le même effet. C'est exact.
Qu'en est-il des antidépresseurs et notamment des benzodiazépines? Alors, ça aide à dormir, mais est-ce que ça aide à recaler, on va dire?
Les benzodiazépines ne recalent pas. Les benzodiazépines agissent sur le sommeil. Oui. Elles n'agissent pas comme agent de resynchronisation. Ça, c'est un point. Et l'autre point qui est fondamental, c'est qu'il faut éviter à tout prix les benzodiazépines parce qu'il y a des possibilités d'accoutumance à la molécule et donc il faut éviter au maximum les benzodiazépines.
Mais c'est vrai que je parlais de benzodiazépines et d'antidépresseurs parce qu'on n'a pas parlé au cours de cette émission, mais c'est vrai qu'il peut y avoir un lien également entre les problèmes de dysfonctionnement biologique et les dépressions.
C'est exact. Dans les dépressions, celles qui n'ont pas de cause évidente, qu'on appelle la dépression dite endogène, on l'appelait endogène autrefois, eh bien dans cette dépression, on observe une diminution de la sécrétion de mélatonine. Il y a des travaux qui ont été faits et qui ont montré que la mélatonine pouvait être utile. D'ailleurs, il y a un agoniste de la mélatonine qui est en cours de mise sur le marché, en cours d'AMM. Et il y a également le fait que si l'on considère que dans certains cas, la dépression puisse être un déplacement de phase, la mélatonine peut, comme je vous l'ai dit, agir sur la phase de ce rythme.
Eh bien, merci Yvan Twitou de nous avoir accordé tout ce temps auprès de vous, donc dans votre bureau ici à la Faculté de médecine à Paris. Et puis peut-être une prochaine fois.
Merci à vous.
Merci.
Merci.